Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un épisode que j'ai jamais enregistré sur le podcast avant aujourd'hui parce que, bon, c'est la première fois que je vis ça, donc c'est aussi la première fois que j'en parle. Voilà, vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu mes premières lettres de refus pour la traverse rêve, et plus spécifiquement, deux refus. Donc, la première m'a rien fait, je vais vous en parler plus tard dans l'épisode, mais la deuxième m'a fait beaucoup de peine, et je vous en parle aujourd'hui. Donc, je vous explique ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu. Je vous parle aussi en détail des retours de comité que j'ai eus, d'un appel que j'ai eu avec une éditrice, et bien sûr, je vous parle aussi de la suite. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la traverse rêve? Qu'est-ce qui pourrait arriver, en fait? Parce que c'est pas moi qui a le futur de mon roman entre les mains. Quels sont mes futurs plans, tout ça? Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit récap de LTR, la traverse rêve, pour ceux qui, peut-être, me connaîtraient pas, débarquent sur le podcast. En gros, j'ai fait le premier jet de mon roman de juin 2022. À septembre 2022, donc en 3 mois pile, et c'est un premier jet de 160 000 mots, donc c'est un gros roman, et c'est une fantasy avec de la romance. Ensuite de ça, j'ai fait une pause, quand même longue, puis j'ai fait une relecture de mon projet, donc en janvier, le 1er janvier, j'ai repris mon manuscrit et j'ai commencé ma réécriture 1. Et là, out of the blue, comme ça, très surprenamment, je reçois un message sur Instagram en février d'une éditrice, d'une ME qui faisait partie de mes premiers choix. Donc, j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent, mais je tiens à comme remettre le contexte pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode. Au début, je stresse. C'est un peu la panique quand je reçois ce message-là. Au début, je me demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une fraude, quoi que ce soit. Je fais des recherches, je découvre que c'est vrai et que tout est OK dans ce message-là. Puis, c'est ça, je réponds évidemment que ça m'intéresse et que je vais bien évidemment leur envoyer mon manuscrit dès qu'il va être terminé parce qu'on m'a bien dit dans le message, au terme de votre réécriture, on aimerait étudier votre manuscrit. Et donc, j'étais très contente, très surprise aussi, surtout que j'étais vraiment au début de mon processus de réécriture et ça a enclenché toutes sortes de stress différents. Donc, j'avais le stress par rapport à ce que j'écrivais. Souvent, je me demandais qu'est-ce qu'ils vont penser de cette phrase-là, qu'est-ce qu'ils vont penser de ce passage, de cette scène, de plein de trucs comme ça. En fait, moi, je sais depuis le début que je veux présenter mon roman en comité, que je veux présenter mon roman à des maisons d'édition, que j'ai envie d'être publié. Et pourtant, c'est comme si là, ça prenait une autre proportion et que j'en prenais réellement conscience, en fait. Donc, c'est comme si avant, je réalisais pas que quelqu'un allait lire mon roman un jour, même si, à ce moment-là, j'avais déjà des bêtas qui lisaient mon texte. Ça m'a beaucoup freinée, ça m'a mis beaucoup de pression. Ça, c'est un peu moi qui me la mettais moi-même, tu sais, c'est pas la faute de personne d'autre que moi. Et à part ça, j'avais aussi un stress par rapport à ma rapidité et au fait que quelqu'un peut-être pourrait passer avant moi dans le processus de soumission, tu sais. Par exemple, quelqu'un qui avait un texte similaire et qui terminait avant et ça faisait en sorte que j'étais pas prise. J'avais beaucoup de peurs différentes et j'aurais vraiment dû essayer de me canaliser plus parce que c'est des trucs qu'on contrôle pas malheureusement. Et j'avais aussi la peur que la maison d'édition me trouve pas professionnelle et pas assez rapide. Alors que c'est vraiment stupide. Je vais juste vous dire là maintenant dans cet épisode-là. La maison d'édition attend pas notre texte activement, tu sais, en fait, ils font plein d'autres choses à côté, ils ont plein d'autres chats à fouetter, ils ont plein de travail, mais ils ont beaucoup de travail, et même si je stressais sur ma vitesse, ça changeait rien. Et en plus, eux, je pense que ça changeait rien pour eux que je l'envoie un peu plus tard. Donc, je tenais à vous le dire, au cas où vous vous retrouvez dans la même situation que moi, ne stressez pas par rapport à ce que la ME pense de vous. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de peur à avoir à ce sujet-là. Ça m'étonnerait énormément que les gens qui travaillent là-bas soient dérangés par le temps que vous prenez pour terminer votre roman. La raison pour laquelle j'étais stressée, c'est vraiment parce qu'autour de moi, il y avait deux écoles de pensée. Il y avait les gens qui me disait « Ah, ben prends le temps que tu as besoin, plus tu mets de temps, plus tu mets d'efforts sur ton manuscrit, plus il va être abouti et plus tu auras de chance de ton côté. » Et de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient souvent dans le milieu de l'édition en plus, qui me disaient « Non, dépêche-toi, envoie une version pas finale au pire et peut-être que comme ça tu auras une chance parce que pendant tous ces mois où tu attends et où tu travailles sur ton manuscrit sans l'avoir présenté, c'est possible que quelqu'un passe devant toi avec une idée similaire, et c'est possible aussi qu'il n'y ait plus de place dans le catalogue, plein de choses comme ça. Là, moi, je me dis « Ok, qu'est-ce que je fais? » Et là, ça me stresse encore plus, même si au final, le message de l'éditrice m'a motivée, ça c'est indéniable, et ça m'a permis de croire un peu en mon roman, parce que je me disais « Bon, s'il y a l'air intéressant de l'extérieur, j'ai peut-être une chance d'avoir d'autres contacts, ou que quelqu'un d'autre s'y intéresse et aime ce qui elle lit, donc c'était encourageant, mais même à ça, c'était aussi difficile et je vous en ai parlé dans l'épisode de podcast sur l'attente des réponses des maisons d'édition, mais j'ai un peu eu l'impression que j'attendais les réponses depuis plus longtemps alors que pas du tout à cause de ce message-là et je me sentais vraiment moins dans mon coin pendant que j'écrivais au final, alors qu'honnêtement, comme je vous ai dit, je me rends compte que la ME n'est pas préoccupée par moi spécifiquement et par le temps que je prends. Mon manuscrit n'est pas si important pour eux que ça dans la masse, je pense. En tout cas, et je dis pas ça du tout de façon négative, c'est juste qu'il ne faut pas se mettre trop de pression, je pense. Au final, je stressais tellement que j'ai voulu envoyer le début de mon roman avant de terminer, un peu pour avoir une idée de si ça avait une chance chez eux. Et j'ai donc utilisé l'adresse mail que la première éditrice m'avait envoyée. Et j'ai envoyé un mail, écoutez, j'ai pas encore terminé mon roman, mais je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous envoie les 10 premiers chapitres afin qu'on voit un petit peu si c'est quelque chose qui pourrait vous tenter. Et je reçois un mail automatique qui m'explique que l'éditrice ne travaille plus dans la maison d'édition. Donc, recoup de stress parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de courage à envoyer ce message-là. Et puis, ça me dit effectivement dans le mail, vous pourriez contacter telle ou telle personne, et là j'ai d'autres emails. Donc, je prends une des adresses, et je réécris mon mail pour cette personne-là en mettant un peu plus de contexte, pour expliquer qu'une ancienne collègue m'avait écrit sur Instagram et tout ça. Et on me signifie que ça les intéressait d'avoir les 10 premiers chapitres. J'ai eu une réponse très rapidement, et donc je leur ai dit que j'allais envoyer. Et ça m'a pris 2 jours, je crois, à préparer les 10 premiers chapitres. J'ai fait une dernière révision. J'ai aussi révisé un petit peu mon dossier de soumission et je l'ai adapté. J'ai rajouté des trucs quand même intéressants niveau illustration de personnages et tout ça. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour la maison d'édition de voir un peu notre univers visuellement. Et une semaine plus tard, il me semble quelque chose comme ça, je reçois un autre email qui me dit que le roman est envoyé en comité de lecture. Donc, là, un autre coup de stress, mais vraiment pas grave. Je continue encore ma réécriture, je fais un peu comme si rien n'était. Et je dois dire aussi que dans mon email de proposition pour les 10 premiers chapitres, j'avais dit que je voulais terminer pour fin août, donc que j'enverrais mon manuscrit d'ici là. Donc là, j'ai comme une deadline imposée, que vous allez voir plus tard, mais j'arrive pas à la suivre parce que j'ai eu des soucis de santé. Donc voilà. Et un mois après mon envoi, donc 3 semaines environ plus tard, après que mon manuscrit a été envoyé en comité, on me confirme qu'on aimerait lire la suite. Donc, c'est comme encourageant pour moi parce que je me dis, ok, ça veut peut-être dire que mon style les a pas non plus rebutés, ça veut peut-être dire que le texte peut être intéressant pour eux. Tu sais, je me disais, s'il y a vraiment aucune chance, ben ils m'auraient dit non, envoie pas le reste. Et donc, je continue à mettre les bouchées doubles. Là, comme je vous ai dit entre-temps, j'ai eu des problèmes de migraine et tout. Donc, ça m'a pris plus de temps que prévu, mais j'ai quand même réussi à envoyer le 10 septembre. Donc, c'est pas si mal, mais je me sentais un peu en retard et tout. Et là, le mail que je reçois me dit que ça passe directement en comité. Donc, je sais déjà que c'est en comité. Je sais aussi que cette maison d'édition-là est rapide. L'attente a été un peu infernale, comme je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais en gros, j'espérais beaucoup. Et entre-temps, donc depuis février, j'avais vraiment eu le temps de me faire plein de scénarios, de m'imaginer un peu des issues positives, on va dire, pour mes premières soumissions. Parce que je suis quelqu'un qui visualise très rapidement, qui aime faire des affirmations positives, ce genre de choses-là. Et donc, même si j'essayais de réfréner mes espoirs, j'en avais beaucoup. Et je pense que beaucoup d'auteurs autour de moi préfèrent se réfréner le plus possible pour pas être déçus. Et moi, c'est ça que j'essayais de faire et j'y arrivais pas. Donc, ça a été un peu compliqué. Mais après 2 semaines, je reçois un premier refus. Et c'est un refus de la maison d'édition Gulfstream. Donc, un refus assez type. Ils n'ont pas lu mon manuscrit parce que c'était trop long pour eux, ce que je comprends. C'est quand même un gros manuscrit parce que, bon, aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit, mais il fait 179 000 mots. Donc, avec la réécriture, même si j'ai enlevé plein de trucs, il est plus gros. Alors, c'est sûr que ça peut faire peur à une maison d'édition, même si c'est un manuscrit d'imaginaire. Et je ne savais pas, à cette époque-là, je pense que j'ai manqué l'information au moment de faire ma soumission, mais Gulfstream ont vraiment une limite de caractère. Et moi, je la dépasse largement, donc c'était pas possible pour eux. Donc voilà, je reçois, il est trop gros pour nous, donc on préfère vous refuser tout de suite. Et là, je me dis, ok, je l'ai pas trop mal pris, c'est juste, j'ai juste eu un petit coup de panique, dans le sens que je savais déjà que mon manuscrit serait difficile à caser quelque part, vu sa grosseur. Mais là, ça me le montrait comme plus, puis je le vivais pour de vrai. Donc, ça a été un peu décevant là-dessus, surtout que j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de maisons d'édition qui ont des limites de caractère. Mais sinon, je l'ai pas mal pris, ça disait rien sur la qualité de mon manuscrit ou quoi que ce soit. Surtout que j'attendais surtout la réponse de la ME qui m'avait contactée au final, et ils ont été très rapides pour la grosseur de mon manuscrit, je trouve. Tu sais, ça arrive qu'on peut attendre 3, 4 mois, 6 mois, 1 an. Donc, ayant entendu 6 semaines, je me trouve très chanceuse. Même si je l'ai pas très bien vécu, je suis 100% consciente que c'est rapide. Et c'est un refus dans lequel on me dit, je vais vous sortir le mail. Je vais pas vous lire au complet, là, mais seulement une petite phrase pour que vous ayez une petite idée. Donc, on m'informe qu'on a pu étudier mon projet La Traverse Rêve au complet et que malgré de nombreux points très accrocheurs tels que la romance Enemies to Lovers, on ne sera pas en mesure d'ajouter ce titre à notre catalogue et ce, en raison d'une trame narrative que nous n'avons pas trouvée assez originale et d'un décor qui, fondamentalement, nous a rappelé 2 de nos titres d'aventure, l'un paru et l'autre apparaître. Voilà. Et moi, je reçois ça alors que j'allais commencer à travailler et je m'attendais à une réponse cette journée-là. Je me disais que ça serait peut-être pas le cas, mais j'avais vraiment comme un feeling. Et c'est vraiment arrivé quand je pensais que ça allait arriver. C'est-à-dire que je parlais à ma mère, ma sœur en bas, puis je suis montée à ma chambre. Et je me suis dit, imagine, je reçois une réponse là. Et j'ai reçu une réponse là. Et c'était vraiment stressant. Quand j'ai vu le nom de l'éditrice, j'ai un peu... disons que mon cœur s'est mis à battre super vite et j'avais vraiment pas envie de lire le mail, mais je savais aussi qu'il fallait que je l'ouvre le plus vite possible pour pas me faire d'espoir ou, ressentir trop d'émotions néfastes. Donc j'ai écrit à mon amie, je lui ai dit « Oh mon Dieu, j'ai reçu une réponse, j'ai pas envie d'ouvrir », mais je l'ai ouverte quand même. Je suis allée sur mon ordinateur pour mieux voir parce que je voulais voir le preview du mail parce que je savais que ça me dirait si j'allais être prise ou non. Ou en tout cas, j'étais presque sûre. Et effectivement, je voyais déjà le... Malgré de nombreux points accrocheurs, tu sais. Donc, je savais que c'était non. Et ça m'a fait beaucoup d'émotions sur le coup. Moi, j'étais sûre que je voudrais vivre mon refus seule pour cette maison d'édition-là. Donc, que j'en parlerais pas trop au départ. Mais au final, j'ai fait une story et j'en ai parlé un petit peu. Et j'ai un peu fait une erreur. C'est-à-dire que j'ai pas attendu que... mes émotions se calment, que la poussière retombe. Et en faisant mes stories, j'avais pas anticipé que ça pourrait être interprété d'une manière que je voulais pas, Parce que, évidemment, quand on fait une story écrite, on n'a pas la nuance, toute la nuance possible. Déjà, on n'entend pas le ton de la personne, donc on peut s'imaginer le ton qu'on veut. Et c'est un peu pour ça que j'ai un podcast, d'ailleurs. Mais voilà, j'avais pas anticipé que mes paroles pourraient être entendues d'une manière que je voulais pas, et j'ai pas assez développé mon ressenti. Donc, je pense que ça a donné un peu l'impression que j'étais fâchée ou amère ou quoi que ce soit, alors que je comprends le refus. Et je comprends totalement une maison d'édition de pas vouloir défendre trois textes qui sont similaires au niveau du décor, aventure, tout ça. Et d'ailleurs, le texte qui est déjà paru, je me doutais qu'il pourrait peut-être être comme une entrave à mon entrée dans cette ME-là. Je sais pas trop comment dire autrement, mais je pense que vous comprenez. Je me doutais bien que ça pourrait bloquer mon texte. Donc, ça m'a pas tant étonnée que ça. Donc voilà, non seulement on voyait pas mon ton, on voyait pas comment je me sentais vraiment, mes émotions et tout, vu que c'est très impersonnel une story écrite, mais en plus, vu que j'avais pas pris le temps de process mes émotions, je pense que j'exprimais pas bien. Donc c'est aussi un peu ma faute là. Et j'ai pas mis toute la nuance que je voulais, j'ai vraiment lâché des trucs un peu sans explication assez développée, on va dire. Donc, si c'était à refaire, je referais différemment parce que je veux pas blesser personne dans le processus de m'ouvrir par rapport à mes sentiments et par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie d'autrice. Donc, voilà. Le truc du manque d'originalité dans la trame, oui, ça m'a un peu piqué, on va dire. Mais ça, c'est parce que pour moi, c'est pas vraiment un défaut. Parce qu'il y a beaucoup de livres que je lis qui se ressemblent et j'aime ça, en fait, retrouver des trucs que j'aime dans plein de livres. Et j'ai l'impression que de nos jours, ben c'est normal que plein de choses se ressemblent dans les livres, que ce soit niveau décor, niveau univers, niveau trope, niveau thème, niveau trame narrative, justement. Et donc, pour moi, c'était dommage, on va dire, même si je conçois totalement que mon roman n'a pas la trame la plus originale au monde. C'est quand même une trame assez classique, on va dire, surtout en fantasy. Mes personnages partent en quête d'un objet magique. Donc, clairement, c'est pas le truc le plus original. Et c'est sûr que là, j'ai juste quelques phrases qui m'expliquent le refus, donc je comprends pas tout encore qu'est-ce qui pourrait avoir fait en sorte qu'on me dise non. Mais on me propose les fiches de lecture et évidemment je les veux, je veux voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon roman, donc je dis oui, envoyez-moi les fiches s'il vous plaît. Mais pour revenir aux stories que j'ai fait, je veux juste vous conseiller, si vous sentez que vos émotions sont un peu fortes, n'hésitez pas à attendre avant de faire une story parce que ça se peut que vous vous rendiez pas compte de l'émotion qui peut transparaître dans vos écrits. Si vous le faites en face cam, je pense que c'est moins pire parce que là, les personnes qui vont regarder vos stories vont pouvoir voir un peu votre émotion, c'est quoi la vraie émotion. Et il y aura moins de quiproquos, je pense. En tout cas, je voulais juste vous dire ça. Moi, j'ai un peu regretté d'avoir fait ces stories-là aussi vite parce que je pense que on sentait pas vraiment mon ton comme je l'aurais voulu. Et comme je le sentais aussi parce que c'est sûr que j'étais déçue. J'avais vraiment envie de travailler avec cette maison-là parce que je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils font des trucs vraiment géniaux au niveau livre. Et surtout, au niveau du soin qu'ils apportent à leurs auteurs, je trouve que c'est vraiment une belle ME. Donc, c'est clair que j'étais déçue. Je pense que c'est normal. Mais c'est ça, j'aurais dû attendre un peu plus avant de faire des stories. Et surtout, parfois, ça vaut mieux comme ça. Donc, après quelques heures, je crois, je reçois les fiches de lecture. Et là, j'en prends connaissance tout de suite, dès que je les reçois. Je lis une première fois, c'est sûr que je comprends pas tout ce qu'ils veulent dire. Je lis plusieurs fois, donc pour bien les assimiler, bien comprendre ce qu'on me dit, j'ai lu, je pense, 8, 9, 10 fois les fiches en tout. Mais c'est ça, je les lis une première fois le jour même, et après je les ai pas regardées encore une fois la même journée, j'ai attendu le lendemain, et après je les ai lues souvent. Donc... ce que j'étais très très contente de voir dans mes fiches, c'est qu'il y avait beaucoup de positifs. Donc on m'a parlé de la construction de mon monde, les îles flottantes et les fleurs qui sont la source d'énergie, tout le combat d'Ezra dans son addiction parce que c'est un des thèmes de mon roman, les scènes d'action sur le dirigeable qui sont prenantes. On m'a aussi parlé d'une expédition en forêt, dont je ne vais pas dire grand-chose, qui était intéressante. Et on m'a dit que le love interest était très mignon et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et sinon, autre chose de positif qu'on m'a dit, le fait qu'il y a de nombreux thèmes intéressants, les personnages qui sont marquants selon le comité, les personnages secondaires attachants, et on m'a aussi beaucoup parlé de toute l'évolution d'Oriane dans le positif d'une des fiches, et ça, j'ai trouvé que c'était très bien trouvé du comité. Ça, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment bien compris ce que je voulais faire avec le personnage d'Oriane. Et là, pour le négatif, c'est sûr que c'est toujours plus difficile à encaisser, même si je comprends. On m'a parlé que sur le fond, il faudrait mieux approfondir la quête. Ça, en relisant mon manuscrit, j'ai eu un peu de mal à voir comment je pourrais plus approfondir la quête de l'artefact principal. Pour le deuxième artefact, je vais pas tout spoiler, là, je vais rien dire de précis. Ça, j'ai vu totalement ce qu'il voulait dire et j'ai essayé d'expliciter plus. On m'a aussi parlé d'un univers dense et complexe qui n'est pas assez expliqué ou présenté au lecteur. J'ai essayé d'améliorer ça aussi. Par contre, il y avait quelques petits trucs faux dans les fiches de lecture. Et là, c'est vraiment pas pour envoyer des pics à la maison ou quoi que ce soit. Je pense que peut-être mes 10 premiers chapitres ont été lus, c'est ça, en avance. Et qu'après, ils n'ont pas été relus. Donc, il y a peut-être eu comme des oublis, je sais pas trop. Et en fait, on me dit, par exemple, page 45, on apprend telle chose, mais en fait, je l'avais déjà mentionné plus tôt. Tu sais, j'ai vraiment relu le début de mon manuscrit avec attention. Et j'ai vu que souvent, j'écrivais les choses noir sur blanc. Donc, je pense qu'il y a peut-être des petits morceaux qui ont été manqués. Et c'est ça le plus gros, en fait, de mes points négatifs. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé ça dommage. Je pense qu'au final, si je rajoutais, ça allait être trop pour le lecteur. Tu sais, on entend souvent le conseil, « Ah, mais si tu dis trop de fois telle chose à ton lecteur, c'est comme si tu le prends pour un con, des choses comme ça. » Donc là, j'ai comme essayé d'insister un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, parce que c'était déjà insisté 2-3 fois, et c'était vraiment écrit clairement. Donc, j'ai vraiment eu de la misère un peu à appréhender certains des retours des fiches de lecture. Je me disais, bon, est-ce qu'ils ont manqué l'info, ou est-ce que je devrais encore plus insister? Donc, c'était un peu difficile. J'en ai parlé à mes bêta-lectrices, ça m'a permis de voir un petit peu qu'est-ce que je prenais, qu'est-ce que je laissais. Je pense que c'est normal aussi que quand on reçoit un retour de comité, on prend pas chaque commentaire. Souvent, on a une vision très précise de notre roman et ça se peut que certains retours aillent à l'encontre de celle-ci. Donc, faut pas hésiter à vraiment prendre le temps de réfléchir et à se demander, est-ce que ça, vraiment, c'est ce que je veux pour mon roman? Ou est-ce que ça, ça l'est pas? Est-ce que je peux l'implémenter de telle ou telle façon? J'ai vraiment pris mon temps là-dessus, là. J'ai pris plusieurs jours pour me poser plein de questions. Et j'en ai parlé à beaucoup de gens aussi qui m'ont aidé à éclairer tout ça. Donc ça, l'aspect world building, pas assez précisé, j'en avais parlé en story un petit peu. En lisant mon roman, c'est ça, comme je vous disais, je me suis rendu compte que c'était ok, ou en tout cas c'était mieux que ça laissait présager dans les fiches, en fait. Et c'est sûr que j'ai trouvé ça dommage qu'on me reproche un truc qui avait pas l'air vrai au final. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé. Par contre, je comprends totalement que l'AME a énormément de textes à lire. Donc, à un moment, j'imagine qu'il faut pas passer trop de temps sur un texte. Et surtout, ben, quand on en a plein en tête, ça se peut là, qu'on mélange des informations et tout. Donc, c'est pas du tout un reproche. Et je conçois totalement que ça peut être vraiment compliqué là, de gérer la lecture de tous ces textes-là, parce que je sais pas combien ils en reçoivent, mais vu que c'est une grosse ME, ça doit être assez infernal à gérer. Autre point négatif du manuscrit, et ça c'est les points négatifs d'une fiche, donc il y a une fiche qui m'a mis seulement ça comme point, c'est que certains points manquaient de précision. Donc il y a beaucoup de questions dans mon tome 1 qui n'ont pas de réponse, c'est totalement voulu, en fait. Il y a comme... En fait, mon tome 2 est vraiment planifié à la lettre déjà. Et depuis le tout début que j'écris mon tome 1, je sais que toutes ces questions-là arrivent dans le 2. Donc, tout est déjà orchestré, on va dire, et tout changer ça, ça aurait été un peu infernal, et surtout, ben, il aurait fallu que je change mon histoire au complet. Donc là, je me demandais, est-ce que c'est dérangeant parce qu'il y a trop de questions, ou est-ce que c'est dérangeant parce qu'on ne sait pas trop si l'autrice a oublié de donner les réponses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça, j'ai pu le clarifier avec l'éditrice en appel. Je vais vous en parler bientôt. Donc, voilà. Ça m'a un peu surprise, en fait, que j'avais autant... en fait, que ces points-là qui n'étaient pas assez précis aient un aussi gros poids dans la balance, j'avais l'impression, en tout cas, parce que ça prend vraiment comme une demi-page, cette explication-là. Et on m'a dit, il y a une des intrigues que je peux pas vous nommer parce que ça spoil, qui est pas assez développée. Ça, j'étais d'accord et mes bêta-lectrices étaient d'accord aussi. Donc, j'ai vraiment essayé de le développer plus dans ma révision. J'ai ajouté pas mal de petites scènes et voilà, tous les moments en fait où cette intrigue-là prend de la place, j'ai modifié un petit peu. Donc ça, c'était intéressant. Et sinon, on m'a parlé de personnages secondaires qui mériteraient peut-être plus de caractère. J'ai essayé d'arranger ça, mais c'était aussi difficile en essayant de pas ajouter trop de mots à mon manuscrit qui est déjà gros. Oui, on m'a aussi dit que l'intrigue était un peu linéaire et qu'on se doute dès le début de certaines issues que je vais pas donner parce que je veux pas vous spoiler encore. Ça, je sais pas. Pas trop quoi en penser, en fait, dans le sens que, personnellement, quand je lis, ça me dérange pas de voir la fin arriver. Et surtout, mes bêta-lectrices, c'est pas ça qu'elles pensaient qu'elle allait arriver pour la plupart. Et celles qui avaient deviné étaient extrêmement contentes que ce soit ça, l'issue que j'avais choisie. Donc, moi, je voulais comme garder cette issue-là. Je pense que où j'aurais pu modifier, ce serait pour qu'on s'y attende moins. Mais ça aurait demandé beaucoup de remaniement et ben c'était pas primordial pour moi en fait qu'on voit un peu moins le fil rouge et on m'a donné des idées pour complexifier le fil rouge justement. J'ai utilisé une des idées donc il y en avait quelques-unes et pour vrai j'étais tellement reconnaissante d'avoir plein d'idées pour rendre mon manuscrit plus complexe on va dire. Il y a une des suggestions qui ne fonctionnait pas pour mes personnages. Je trouve que ça aurait été incohérent. Et il y a une des suggestions que j'ai utilisée, donc donner un rôle plus important à un élément dans le manuscrit. Et sinon, il y avait deux autres suggestions que je pouvais pas utiliser en fonction du tome 2. Donc, c'est vraiment dur à expliquer là sans vous spoiler, mais en gros, c'est juste que chaque péripétie dans mon tome 1 a une raison d'être. Et tout est lié. Donc, le tome 1 et le tome 2 sont liés. Il y a des indices tout le long du tome 1 aussi. Donc, il y a des trucs que même si la suggestion était pas stupide ou quoi que ce soit, je pouvais pas tellement l'utiliser. Mais en tout cas, j'en ai utilisé deux. Et ça m'a beaucoup aidée. Et je vais vous en parler aussi pour l'appel, pendant l'appel, mais j'ai aussi utilisé beaucoup de petits stratagèmes pour faire comprendre à mon lecteur que les réponses arrivaient. Donc, que j'avais pas oublié qu'il fallait les donner. Donc ça, c'est pour les retours de comité. Comme je vous ai dit, ça a été compliqué un peu d'appréhender au début. Je me demandais, est-ce que c'est mon ego qui parle? Est-ce que c'est mon ego qui m'empêche d'appliquer toutes les modifications qu'il me propose? Puis, c'est ça, après maintes discussions, j'ai réalisé que non. Et je pense vraiment que c'est normal de ne pas appliquer toutes les suggestions d'un comité de lecture. Faut pas oublier que un comité de lecture, c'est pas des robots, donc c'est clairement des personnes humaines qui ont des avis. T'sais, tout le monde a un avis différent, tout le monde a des perceptions différentes, tout le monde a des goûts différents. Qu'on soit lecteur, bêta-lecteur, professionnel, éditeur, peu importe, je pense qu'on a toutes des lunettes devant nos yeux qui nous font voir les choses d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est impossible d'être 100% objectif quand on est un humain, je pense. Donc, on a tout le temps une petite vitre teintée, je pense. Ça, c'est mon avis. Et c'est pour ça aussi que des bêta-lecteurs peuvent se contredire sur certains points, que deux personnes différentes peuvent avoir un avis complètement différent sur un même livre. Donc, c'est pour ça qu'au final, j'ai décidé de pas tout prendre en compte. J'avais des raisons, comme je vous ai dit. Mais en tout cas, ça a vraiment été aidant au final. Pour certains points, j'ai pu améliorer, j'ai pu modifier un petit peu. Donc vraiment, j'ai relu tout mon roman, j'ai rajouté des choses, j'ai insisté sur pas mal de points, comme c'était suggéré dans mes fiches. Et grâce à ça, j'ai pu renvoyer mon roman, et ça aussi, je vous en parle plus tard. Maintenant, on va parler de l'appel. Donc lundi, j'avais reçu le refus mercredi la semaine avant. Le lundi qui arrive après, j'ai reçu un mail de l'éditrice qui me proposait un appel pour mieux m'expliquer les raisons du refus. J'ai beaucoup apprécié. J'ai répondu que je comprenais le refus, que c'est pour moi totalement normal là, de pas pouvoir ou vouloir défendre mon texte, peu importe, étant donné qu'ils ont des textes similaires. Et je conçois aussi, comme j'ai dit, que ma trame n'est pas 100% nouvelle et innovatrice. Puis on s'est fixé un rendez-vous pour le lendemain, mardi matin, et on a parlé environ 30 minutes. C'était un peu dommage parce que je la perdais souvent à cause d'un manque de connexion. Je sais pas trop ce qui se passait, mais tu sais, on est loin, là, donc moi au Québec, elle en France. Et c'est sûr que ça a coupé la discussion à quelques reprises, donc c'était dommage, mais ça a été vraiment enrichissant, je trouve, comme appel. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que c'était pas dérangeant forcément qu'il y ait autant de questions dans le tome 1, mais qu'il fallait au moins que le lecteur sente que les réponses allaient arriver. Et donc ça, j'ai fait un gros travail pendant ma révision pour essayer d'améliorer ça. J'espère que c'est réussi. C'est sûr que rendu là, c'est comme un travail un peu plus fin, je pense. Donc c'était un peu plus complexe. C'est quand même mon premier roman, donc j'apprends encore plein de trucs, mais je trouvais ça cool. Et elle m'a aussi parlé de ce qu'il voulait dire par « trame pas assez originale ». Donc voilà, j'ai pu un peu voir un peu plus pourquoi j'avais été refusée et j'ai pu avoir un contact avec elle. Donc voilà, je me considère très chanceuse d'avoir eu ces fiches de lecture-là. Ça me montre un peu quel genre de commentaires on peut recevoir d'un comité. C'est comme une première expérience aussi de critique qui viennent de quelqu'un d'autre que des bêta-lecteurs, bêta-lectrices. Et donc, j'étais aussi très contente d'avoir un appel. L'éditrice n'était vraiment pas obligée de prendre de son temps pour m'appeler, donc ça m'a fait plaisir. J'avais aussi mentionné dans mes stories que c'était un refus avec pas de possibilité de renvoi. Et moi, je l'ai vraiment vu comme ça quand je l'ai reçu, le refus, parce que dans ma tête, quand on refuse quelqu'un, mais qu'il y a comme une possibilité, s'il y a un retravail, on le dit peut-être explicitement, c'était ça mon impression, mais il n'y avait pas ce message-là dans le mail, et je comprends parce que si on ne veut pas défendre trois textes similaires et si mon texte n'a pas été, remplissait pas en fait tous leurs critères, je comprends qu'on me dise non, et moi, je me disais, si je retravaille pas en grande partie comme ils m'ont proposé, ben je vais pas renvoyer parce que eux ils voudraient le texte comme ça, moi peut-être pas forcément, donc j'ai vraiment eu l'impression que il y avait pas de ben que je pouvais pas renvoyer. Au final, elle m'a dit dans l'appel que c'est pas la porte est pas fermée pour de futurs textes et pas pour la traverse rêve non plus. Moi je cacherai pas que je vais pas réessayer avec la traverse rêve pour cette ME. Tout simplement parce que certains changements proposés, ça m'intéresse pas tellement de les appliquer. Je trouve ça un peu délicat à dire, là, parce que je veux pas froisser personne. Mais c'est ça, donc je tiens à garder la vision que j'avais de mon roman quand même. Et surtout, ben pour les raisons pour lesquelles on m'a refusé, je comprends. Puis je trouve que c'est quand même des grosses raisons valables. Et j'ai pas envie de reproposer le même texte, sauf si il y avait comme 5 ans d'écart et énormément de changements faits dessus. Donc voilà, la conclusion, j'ai peut-être été trop lente, je sais pas. Il y a peut-être le texte qui n'est pas encore paru, qui a passé devant le mien, peut-être, je ne saurai jamais. Et honnêtement, ça me dérange pas tant dans le sens où ben, je voulais envoyer un texte qui était abouti, un minimum, tu sais, je voulais envoyer un texte qui avait au moins 2 réécritures parce qu'après une, je considérais pas que c'était suffisant pour envoyer ça en comité de lecture. Et je vous garantis que les fiches auraient été pas mal plus, auraient été pas mal plus fournies en points négatifs, en fait. Donc, voilà, je regrette pas vraiment d'avoir attendu autant de temps pour envoyer mon texte. Je crois qu'au final, même s'il n'y avait pas eu les deux autres romans qui ressemblent, le mien ne correspondait pas exactement à ce qu'il recherche. Donc, j'essaie de ne pas m'en faire trop avec ça, pas me faire de soucis. Et pour ce qui est de la suite, après ma petite révision, ou plutôt grosse révision, parce que j'ai tout relu, j'ai envoyé mon roman à d'autres maisons d'édition. Et là, c'est comme la vraie fois où j'envoie. Parce que la première fois, j'ai envoyé seulement à 4 endroits, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, 2 soumissions traditionnelles et 2 non traditionnelles. Et cette fois-ci, ben, j'ai envoyé à pas mal plus d'endroits, je crois. Toutes des maisons d'édition que j'aime beaucoup. Et j'espère recevoir un oui dans le futur, mais évidemment, je ne peux pas contrôler ça. Donc maintenant, j'attends. Et j'espère que ma relation avec l'attente va être plus saine cette fois-ci, mais je pense que oui. Toutes les maisons d'édition à qui j'ai envoyé, ou presque, cette fois-ci, il n'y a pas de contact avec quelqu'un en particulier dans la ME. Et il n'y a pas d'antécédent de rapidité connu, si on peut dire. Un autre truc qui a mieux fait passer le refus, c'est que la veille, j'avais reçu un message d'un autre éditeur qui voulait recevoir mon manuscrit et je lui avais envoyé. Donc ça a aidé. En tout cas, je croise vraiment les doigts pour la traverse rêve parce que moi, j'y crois. Je sais que mon texte n'est pas parfait. C'est vraiment pas ça le point. Mais je trouve qu'il y a des belles choses dans ce texte-là et je l'aime beaucoup. Et je sais que vous l'attendez, donc croisons les doigts ensemble. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long. Là, je vois que mon enregistrement dure 42 minutes. C'est un peu intense. Mais j'espère que c'était intéressant pour vous. Je pense que dans le futur, bientôt, un futur proche, je vais probablement imprimer mes lettres de refus, pardon. Peut-être que ça va comme me donner un petit boost. Ce que je trouve cool avec cet exercice-là, c'est de voir qu'on continue malgré les refus et les petits échecs. Parce que même si j'ai reçu 2 lettres de refus, je continue et je continue à faire des efforts. J'abandonne pas, je baisse pas les bras. Donc je trouve que c'est comme un symbole de force, une lettre de refus. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais en tout cas, même si au début j'avais beaucoup beaucoup d'émotions négatives, j'ai même ressenti de la honte là, pour vous dire d'avoir reçu un refus alors que c'est tellement normal. Genre, je comprends même pas pourquoi j'ai ressenti ça. Tous les auteurs ont des lettres de refus un jour ou l'autre, je pense. Maintenant, ça va vraiment mieux. C'est sûr que là, ça fait un petit peu plus d'une semaine. Donc, j'ai pu me remettre de ces émotions-là. J'ai pu renvoyer aussi. Donc ça donne un petit peu de l'espoir. J'imagine que c'est ça que je voulais vous dire, de pas baisser les bras. Les refus, c'est normal, même si on avait un contact avec une maison d'édition, ça se peut que ce soit un non. Et au final, c'est pas dramatique. C'est sûr que ça prend du temps, recevoir un oui, ça prend plusieurs mois, peut-être même des années. Mais après, on va être tellement fiers de tout le chemin qu'on va avoir parcouru que je trouve que ça vaut la peine. Et surtout, on écrit avant tout pour soi, donc si ça marche pas avec ce roman-là comme premier roman, au pire, on en fait un autre. Et puis, ce premier roman-là va finir par sortir un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre peut-être. Donc voilà, je pense qu'il faut pas abandonner. Croyez en vous, il n'y a rien d'honteux dans un refus, vraiment pas. Et vous êtes capable de vous relever. C'est sûr qu'au début ça pique, ça fait mal, c'est pas le fun, ok? C'est vraiment pas cool recevoir un refus. Mais après, quelques jours, quelques heures, on finit par se relever. Laissez-vous le temps de processer vos émotions, de les accepter, de les vivre aussi. C'est méga important de vous laisser le temps de les vivre. J'ai reçu beaucoup de messages quand j'ai parlé de mon refus sur Insta et on me disait « Ouais, mais t'es vraiment chanceuse, t'as reçu un retour de comité, nanana. » Et je sais. Mais il faut que je vive mes émotions. Il faut que je vive mon refus. Sinon, comment est-ce que je peux le comprendre et me comprendre, comprendre mes émotions et me relever après? On se relève pas quand on prend pas le temps de process nos émotions. Donc, vraiment, c'est important. Même si vous êtes privilégié, parce que moi, je suis vraiment privilégiée d'avoir reçu un retour de comité et un appel en plus, laissez-vous le temps. Vraiment, c'est important. Je crois 100% là-dedans. Donc, je voulais vous le dire. Et voilà, voilà. Cette fois-ci, c'est un vrai merci de m'avoir écouté. J'avais oublié cette partie-là du podcast, le petit message bienveillant et tout. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire peut-être un épisode sur mes apprentissages de première soumission ou comment j'ai soumis mon roman. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez si vous avez envie sur Instagram. Je suis tout le temps disponible pour répondre à vos MP. Donc, n'hésitez pas. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite que vos projets se portent bien et que vous aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou à me contacter sur Instagram pour en discuter. Je poste là-bas très régulièrement et vous pourrez y retrouver du contenu sur l'écriture, la productivité, la lecture et la motivation. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode très bientôt. Jusque-là, j'espère que vous prendrez du plaisir à écrire pour vous.